Vous écoutez
RMC.
Il est 8h passé de 1 minute. Très belle journée à tous sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. À la une, ce matin, les mauvaises perspectives économiques pour 2026. Vous allez voir, et on a des chiffres que les patrons prévoient de moins recruter cette année. On va vous aider à comprendre dans ce journal les nouvelles aides carburants annoncées par le gouvernement, prolongées, élargies. 3 millions de gros rouleurs, mais sous conditions de revenus et en fonction des kilomètres parcourus. Et puis on était cette nuit à RMC à la toute première projection du film tant attendu, le biopic sur Michael Jackson. C'était dans un cinéma près de Marseille.
On s'en doutait, mais les perspectives économiques sont mauvaises pour les mois qui viennent.
Et quand il y a de l'incertitude, eh bien les patrons embauchent moins. C'est ce qu'expliquait un économiste un petit peu plus tôt ce matin sur RMC à propos donc de cette enquête de France Travail qui nous apprend eh bien que les intentions d'embauche sont en baisse de 6,5% pour 2026 par rapport à 2025. Et la guerre ne va rien arranger. Prenez le secteur du bâtiment qui est un des plus touchés. Écoutez, ici à Versailles avec Victor Girard pour RMC.
Peu importe votre métier, il faut que vous remplissiez deux critères. D'abord celui du revenu.
Victor Girard, donc dans un des secteurs les plus concernés, c'est le secteur du bâtiment, concerné donc par ces mauvaises perspectives économiques. Victor Girard, à Versailles, près de Paris.
Au rythme des coups de marteau, trois ouvriers, casque blanc sur la tête, s'activent à démonter la toiture d'un bâtiment.
Bienvenue au chantier Plassoche.
C'est Nelson, le patron de cette petite entreprise spécialisée dans le ravalement de façades qui nous accueille.
On pourrait ajouter une personne sur ce chantier sans problème. Malheureusement, on ne peut pas. Il est impossible d'embaucher.
La faute, selon lui, à une main-d'œuvre qualifiée devenue trop chère et des coûts qui ont fortement augmenté en un an.
Rien que sur la fourniture, vous pouvez compter minimum entre 15 à 30% suivant le type de matériaux.
Dans le même temps, le patron de 49 ans a vu son carnet de commandes être divisé par 3.
Les gens sont très prudent. Les travaux ne sont plus leur priorité. Les conséquences, c'est clairement, nous ne pourrons pas répercuter toutes ces hausses. C'est impossible. Le client lui-même n'aura pas les moyens de payer. C'est comptable. Si vous faites moins de chiffres, forcément, vous ne pouvez pas embaucher.
Alors, plutôt que d'embaucher, Nelson serre les dents et tente de maintenir sa dizaine de salariés coûte que coûte.
J'imagine que ça vous affecte de ne pas pouvoir développer comme vous l'aimeriez.
Bien évidemment, entreprendre, c'est créer quelque chose. Donc, de ne pas pouvoir développer son entreprise, de créer de la richesse pour son pays, c'est très frustrant.
Et la situation n'est pas près de s'arranger. Le patron vient de recevoir un courrier d'un fournisseur lui annonçant une future hausse de 16% sur certains produits issus de la pétrochimie à cause de la guerre au Moyen-Orient.
Alors, autre indicateur qui n'est pas bon ce matin, c'est le livret A qui vient de connaître son pire mois de mars. C'est évidemment lié au taux du livret A qui a été abaissé en février à 1,5%. Effet immédiat, les Français ont retiré 490 millions d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé. Et c'est donc dans ce contexte économique que le gouvernement délocalise le Conseil des ministres à Montluçon, aujourd'hui, dans l'Allier, consacré à la simplification administrative pour l'industrie et l'agriculture. C'est dans ce contexte aussi, évidemment, qu'il vient d'annoncer de nouvelles aides face à la flambée des prix des carburants. Ça a été annoncé en deux temps, hier soir. Faut s'accrocher pour comprendre. On va vous écouter avec attention. Sébastien Krebs, chef du service politique RMC en direct ce matin. Donc, les aides sectorielles qui touchaient déjà pêcheurs, agriculteurs et routiers sont prolongées, même élargies aux bâtiments. Et la nouveauté, eh bien, c'est que ces aides concernent aussi 3 millions de Français modestes qui ont besoin de la voiture. Sébastien, vous allez nous dire de qui on parle et quelles sont les conditions.
Oui, alors la nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de critère de profession. Pour être concerné, il faut simplement être ce qu'on appelle un gros rouleur, c'est-à-dire avoir besoin de sa voiture, soit pour aller travailler à au moins 15 kilomètres de chez soi, soit pour son activité et faire plus de 8000 kilomètres par an. Mais il y a un plafond de revenus. Cette aide sera ouverte à la moitié des contribuables les plus modestes. Pour une personne seule, ça correspond en gros au SMIC. Pour un couple avec deux enfants, par exemple, là, il ne faut pas dépasser 50 000 euros par an. Pour les personnes éligibles, le montant de cette aide sera en moyenne de 20 centimes par litre, nous dit le gouvernement, mais ce sera un forfait, donc ça ne correspondra pas forcément exactement à ça. On a calculé ce matin, en gros, que ce chèque devrait tourner autour d'une cinquantaine d'euros au maximum pour l'ensemble des trois mois, somme qui sera versée en juin. Il faudra en faire la demande sur le site des impôts à la fin du mois de mai.
Alors, on entend depuis ce matin, au 32-16, sur RMC, les Français expliquant qu'ils roulent mais qu'il n'entre pas dans ces critères, les critères de ces aides. C'est un choix du gouvernement de ne pas les généraliser.
Oui, c'est un choix assumé. Sébastien Lecornu tient à faire du sur-mesure ciblé sur ceux qui en ont le plus besoin. Le sujet, c'est clairement l'état du budget. Pas question de faire un chèque généralisé et de creuser encore les déficits, encore moins de baisser les taxes comme le réclame le RN. Ça aurait un effet épouvantable sur nos finances, juge le Premier ministre. Alors même qu'il faut déjà corriger le budget en cours à cause de la guerre, il va falloir rogner au moins 6 milliards d'euros de dépenses, peut-être encore davantage. La conséquence, c'est qu'il y aura forcément des déçus, on les entend déjà ce matin sur RMC, des Français qui roulent beaucoup, mais qui seront juste au-dessus du plafond et qui n'auront droit à rien. La gauche demande déjà à élargir la cible pour toucher davantage de classes moyennes et appelle à piocher dans les profits des pétroliers.
Sébastien Krebs en direct pour RMC. En toile de fond, il y a évidemment la guerre au Moyen-Orient. Elle cessait le feu finalement prolongé. Il devait se terminer ce soir à l'heure américaine, mais Donald Trump a décidé de le rallonger. On ne sait pas pour combien de temps. Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué ce matin et un porte-conteneur a été visé par des tirs iraniens au large d'Oman. À 8h07 sur RMC, une question. Ça concerne le football. Qui va rejoindre Lens en finale de la Coupe de France? Les Lensois sont qualifiés hier soir en battant Toulouse 4 buts à 1. Le public a envahi le terrain. 28 ans qu'il n'avait pas atteint une finale. Et ce sera soit contre Strasbourg, soit contre Nice. Ça, c'est l'affiche de l'autre demi-finale ce soir. Ce sera à 21h sur RMC. Les Strasbourgeois qui cartonnent installés en coupe, hein, Camille Borin pour RMC. Demi-finale de Conference League et demi-finale donc de Coupe de France.
Oui, et même si Gary O'Neill, l'entraîneur du Racing Club de Strasbourg, est fier du chemin parcouru, il voit encore plus loin.
Je ne pense pas qu'on nous voyait arriver jusqu'ici dans ces deux compétitions. On ne peut pas juste terminer la saison et dire c'était bien de demi-finale. Non, on a une opportunité, il faut qu'on fasse quelque chose.
Performer dans les coupes, quitte à délaisser le championnat. Le coach assume la défaite 3-0 face à Rennes dimanche dernier avec une équipe remaniée.
Je n'avais pas d'autre choix que de changer l'équipe, mais le bénéfice aujourd'hui, c'est que nous avons un bon groupe, ils sont tous en forme, donc nous sommes prêts pour affronter Nice.
Les joueurs aussi accueillent cette demi-finale de Coupe de France face à l'OGC Nice avec une excitation propre aux grandes compétitions. Ismaël Doucouré, défenseur central strasbourgeois.
Les matchs à élimination directe, c'est les matchs les plus satisfaisants à jouer parce qu'on sait qu'au bout, il y a un tour suivant. Et là, c'est une finale, donc forcément, ça va être très passionnant. On a déjà affronté l'OGC Nice. On sait aussi que c'est une très belle équipe, mais on est très confiants.
Ce soir, le Racing pourra compter sur son public puisque le match aura lieu au stade de la Meno. Direction ensuite l'Espagne pour se mesurer au Madrilène du Rayo Vallecano le 30 avril en demi-finale aller de Ligue Conférence.
Ce sera donc à 21h sur RMC et avant ça à 19h, il y aura Paris contre Nantes, match en retard de Ligue 1, à la fois la lutte pour le titre côté parisien et la lutte pour le maintien côté nantais. Mais alors le mercredi, c'est la journée, vous le savez, des sorties au cinéma, pour ceux qui y vont encore.
La journée des enfants aussi.
Oui, avec aujourd'hui le très attendu biopic qui retrace la vie et la carrière de Michael Jackson. Film consacré à la star américaine, produit par sa famille, c'est important de le préciser, parce qu'il n'y a aucune mention à ses problèmes judiciaires. Et notre correspondante à Marseille, Anna Jojard, est allée le voir dès sa sortie, à minuit, donc au cinéma de Plan de Campagne.
C'est sous les applaudissements des spectateurs que s'est terminée la dernière scène.
Franchement, j'ai pas vu le temps passer, quoi.
Moi, j'ai tout aimé. Là, si le film il aurait duré 4 heures, je serais resté pendant 4 heures.
Incroyable. Tous les musiques, l'ambiance.
2 heures de film durant lesquelles on retrace la première partie de la vie de l'artiste, des Jackson 5 à sa carrière solo jusqu'à la fin des années 80. Le tout incarné à l'écran par Jafar Jackson.
L'acteur, c'est vrai, il a très bien joué son rôle. Je voyais des fois Michael Jackson, je le voyais en lui.
Franchement, l'acteur, c'est son neveu en plus. Ils sont pratiquement identiques, quoi. C'est époustouflant.
Mais ce biopic, créé sous la surveillance de l'entourage de l'artiste, n'aborde pas les accusations de pédocriminalité qui l'ont visé.
C'est vrai qu'il manquait pas mal de choses.
Ouais. Le film s'achève en 1988.
Dans la trame, c'est pas tout de suite. Je crois que c'est un peu en fin d'histoire. Donc, je pense que dans le deuxième, ils vont appuyer sur ça.
Des spectateurs qui espèrent donc déjà une suite à l'histoire de Michael Jackson sur grand écran.
Oui, c'est vrai que la suite, on la connaît déjà.
On la connaît.
Ah, j'aimais pas les biopics.
Oui, j'avoue, j'ai pas.
Moi, j'aime bien.
Un enthousiasme fou.
Tu connais déjà l'histoire.
Oui, mais Titanic aussi, tu connaissais la fin. Tu as été le voir.
Ah, bah non, moi, j'ai pas été justement. Parce que je connaissais la fin. Voilà, c'est tout le problème.
C'est pas un biopic.
Allez, on connaît la fin.
Ça suffit. C'était le journal de Quentin Vinay. Il y a une ambiance dans ce studio. Allez, on parle économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, Blablacar va cesser son activité d'opérateur de bus en France d'ici la fin de l'année parce que ça n'est pas assez rentable.
Eh oui, Apolline, Blablacar Bus était né en 2019 avec le rachat de Ouibus à la SNCF. L'opérateur, connu d'abord pour sa plateforme de covoiturage, proposait jusqu'à 350 liaisons, mais n'est pas parvenu à équilibrer ses comptes. Trop de lignes, trop de concurrence, des prix qui devaient être attractifs pour attirer une clientèle jeune et peu fortunée. Et c'est vrai qu'il y avait des prix d'appel à 5 euros, des prix moyens entre 10 et 25 euros, jusqu'à 60 euros pour les longues distances. Mais des prix trop bas au regard des coûts fixes élevés, coûts d'achat de la flotte.
Ouh là là.
Coûts salariaux élevés en France, carburant élevé aussi. Résultat, 40 postes sont menacés en direct et les autocaristes partenaires de Blablacar partout en France sont fragilisés.
Est-ce que ça veut dire que c'est l'échec des fameux, on les a un peu oubliés, mais c'était les cars Macron, c'est ce qu'on appelait les cars Macron.
Exactement.
C'était cette ouverture justement à la concurrence des transports par bus.
Alors la leçon à tirer, c'est un très grand classique en économie. Ouvrir un marché, c'est facile. Le rendre viable, c'est beaucoup plus compliqué. Et comme souvent, la concurrence a créé le marché, puis le marché a fini par tuer la concurrence. Parce que depuis 2015, presque aucun acteur n'a gagné d'argent. Rappelez-vous, Ouibus, donc vendu dans un premier temps à Blablacar. Easyline, disparu. Blablacar arrête. Et donc, il ne reste que Flixbus. Je vais pas y arriver.
Oui, c'est dur. Compliqué. Non mais je comprends, vous êtes fatigué.
Flixbus,
je suis là.
Qui s'en sort tout juste et qui, une fois qu'il va se retrouver tout seul, et ben là, la leçon de l'économie, vous la connaissez, qu'est-ce qui va se passer ? Les prix vont sans doute augmenter sur un marché qui reste quand même tout petit, hein, 10 millions maximum de passagers, quand la SNCF en transporte 5 milliards par an. Et puis, probablement des destinations moins nombreuses, puisque moins de 20% des destinations sont rentables.
Donc, ils ne vont garder que, effectivement, les rentables. Allez, les prix du jour, comme chaque jour, sur RMC.
Le gazole, bah, ça avait bien baissé, ça se stabilise autour de 2,18 €, mais c'est quand même 10 centimes de moins que la semaine dernière. Le sans-plomb 95, la résistance est là, hein, toujours 1,97. On reste au-dessus des 1,95. Le pétrole, on a eu des tensions cette nuit, parce qu'évidemment, on a peur que la guerre reprenne. Donc, on frôle à nouveau les $100. Le baril, et puis sur le gaz, petit sursaut, mais après un point bas à 36 € le mégawattheure en fin de semaine dernière. Alors, pas d'affolement sur le gaz.
Merci Emmanuel, il est 8h13. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et vous êtes bien sûr RMC, vous êtes nombreux à réagir sur ces aides tellement ciblées que vous êtes très nombreux à passer à côté.
Oui, oui, on a beaucoup de mécontents ce matin, pour, on peut le dire, Apolline. Laurent nous écrit des miettes, il distribue des miettes, c'est honteux, voilà, pour Laurent qui est dans les Alpes-Maritimes, la situation est grave et le gouvernement ne fait rien, voilà ce que pense Laurent. Stan nous écrit simplement, je fais presque 4000 km par mois, je travaille presque à perte, voilà où en est Stan aujourd'hui. Cet autre message signé Légolas qui nous dit toujours la même chose, les uns payent pour les autres, sans sentiment d'injustice partagé dans vos messages où chacun y va de sa profession, comme ce message signé La Mouette qui nous signale tout simplement que les poids lourds frigo, ça consomme beaucoup, il ne faut pas les oublier. J'ai Nathalie qui nous dit, et pour les auto-écoles, on fait quoi ? On en parle. Elles aussi, effectivement, elles roulent. Ali, lui, nous écrit, là où l'État est très fort quand il décide d'aider les plus modestes, c'est qu'il est très conscient, voire hypocrite. On sait que quelqu'un qui gagne 1 500 € net aujourd'hui ne roule pas avec une voiture. Ça fait malheureusement pas forcément partie de son budget de la même manière pour la classe moyenne. Bravo pour cette escroquerie monumentale, nous dit Ali ce matin. Vous continuez, comme Ali, comme tous les autres, comme Stan, à nous écrire. Sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424.
Il est 8h14 et dans un instant, c'est Arnaud Demange qui vient nous rejoindre. Notez qu'à 8h30, mon invité pour le face-à-face, ce sera Gérard Larcher, le président du Sénat. Est-ce qu'il trouve que ces aides sont à la hauteur ? Est-ce qu'il perçoit aussi une crainte de gilets jaunes, de révolte aussi en France ? Ou est-ce qu'au contraire, tout le monde est résigné ? Je pose la question à Gérard Larcher sur RMC et BFM TV. Puis juste après, il y aura le meilleur de Nicolas Cantelou. Nicolas Cantelou, c'est tous les jours sur RMC. À 8h50, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h16 et c'est Arnaud Demange qui est avec nous.
Bonjour. Every day. Yes. Bonjour à tous. Bonjour. Oh, les amis, Apolline, attention.
Oui.
Attention.
Oui.
J'ai une grosse question.
Ah.
C'est important pour nous. Quel est votre président idéal ?
Alors,
qu'est-ce qu'on aimerait comme président ? Parce que le journal La Tribune dimanche a publié un sondage sur ce sujet. Je suppose que vous l'avez lu. De toute façon, pour
47
travailler...
ans, c'était ça l'idée, non ?
Oui,
attends. Voilà,
oui,
c'est ça.
Voilà. Je vois que vous l'avez lu, mais vous l'avez lu parce qu'ici, c'est obligatoire.
Je m'en suis souvenu, parce que comme j'ai 46 ans, je me suis dit que c'était pas mal.
Ah, c'est surtout que c'est le même proprio que RMC, La Tribune du dimanche, CMA, CGM. Donc on est obligé de lire...
De l'apprendre par cœur.
Bah ouais, de l'apprendre par cœur. C'est pareil. Vous savez qu'on est tous obligés, je le dis pour les auditeurs, de passer nos vacances sur un cargo de la CMA-CGM. Départ Rotterdam, arrivée Dunkerque pour décharger des containers de limaille de fer. C'est ça nos vies.
Voilà.
Bon, donc vous l'avez lu ce sondage. Le président idéal, c'est 47 ans, vous l'avez dit. Il n'est ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Il est prêt à réformer. Et surtout, prêt à préserver la concorde nationale à tout prix, quitte à pas réformer. Voilà, voilà. Les Français, c'est une Parisienne divorcée sur Tinder. Vous savez, c'est le genre.
Moi, je suis un peu attachante fofolle. Moi, j'aime bien les machos rebelles, tu vois, mais sensibles en même temps. Moi, j'ai besoin de quelqu'un d'indépendant, mais présent à la fois, tu vois. Genre, qui laisse sa vie, mais qui soit là quand j'ai besoin, sans être collant. Sauf quand j'ai envie. Mais ça, il faut qu'il devine. Il faut qu'il communique, quoi. C'est hyper important. Mais j'aime bien aussi quand un mec est mystérieux, genre qu'il me dise tout, mais il garde un petit jardin secret auquel j'ai accès quand même. Enfin, tu vois, un homme déconstruit, féministe, progressiste, pas macho, mais au lit, je veux qu'il me traite comme une petite souillon à l'effice. C'est quand même pas trop demandé, quoi.
C'est du vécu, là.
Ah, bah, total, total. Tu reprends un spritz, oh. Les Français veulent à 76%. 76%, ils veulent un président honnête. Donc si Sarkozy se présente, il peut faire 24%. À 48%, ils le veulent courageux. Donc à 52%, ils veulent un lâche qui s'écrase devant la Russie. Ce qui est cohérent. T'additionnes Bardella et Mélenchon, t'as tes 50%. T'ajoutes Dupont-Aignan, t'as les 52%.
Et voilà.
Et alors mon préféré, à 25%, il demande du charisme. Et alors là, vous allez voir comme la transition est toute trouvée. Apolline, attention, roulement de tambour, c'est à vous pour la relance.
François Hollande prépare sa candidature pour 2027.
Et avec les critères demandés, il a toutes ses chances du charisme. Il faut dire que c'est la Hollande mania en ce moment. Les gens sont sur les Champs-Élysées là. Il y a un vrai désir de Hollande, dans le sens où les gens disent « s'il revient, je me casse en Hollande ». Vraiment. Il est en couverture de Marianne. Vous l'avez vu ? Ouais. La couve, il y a marqué, je me prépare. Il y a marqué je me prépare. En gros, tu sais pas si c'est une info ou une menace. Et il y a une grosse photo de lui en mode lover. Il regarde par-dessus ses lunettes, comme les secrétaires bombasses dans les téléfilms érotiques de M6. Il est à deux doigts de sucer un stylo. Et il y a une rose fanée devant lui. On dirait une pochette d'album de chanteur argentin, vous savez, pour draguer les vieilles du Vésinet. Et alors, dans l'interview, il est au top, il se la joue, je me suis pas accroché au pouvoir. Mec, t'étais à un mois du goudron et des plumes, quoi. C'est vraiment le gars qui te dit, j'ai pas trop insisté auprès de mon ex. En même temps, elle a changé de numéro, elle a déménagé, t'as une ordonnance d'éloignement. Alors, fais pas trop le kéké. C'est fou, on est tous vaccinés et ils tentent de revenir, on dirait la rougeole aux États-Unis. C'est lui qui a propulsé Macron. Et là, il veut être le remède au mal qu'il a créé. C'est comme soigner une gastro en allant au kebab. Je suis pas sûr que ça rend la bonne stratégie.
Meilleur manœuvre.
Mais bon.
Alors, on en parlait, le biopic sur Michael Jackson sort aujourd'hui.
Oui, c'est un film qui couvre toute sa vie de jeune chanteur noir à vieux détraqué blanc. Alors, à noter...
C'est vrai que c'est bien résumé.
Ouais, à noter que le film n'est pas interdit aux moins de 12 ans, comme sa chambre à l'époque.
Non, non.
Alors, je ne conseille pas de le voir en VF, hein. C'est un peu moins bien au niveau du texte. Je suis mauvais. Aujourd'hui, je suis mauvais. Vous avez bien sûr reconnu...
Bad,
bien sûr. Tiens, une autre.
Frappe-le, personne ne veut être défait. Montre-leur combien ton combat est amusant et fort.
Vous l'avez ?
Bili. Ah,
alors je suis gentil, je vais quand même récupérer la bande-annonce, mais bande-annonce en VF.
Je suis mauvais. Oh, que c'est triste. Un enfant moche qui a un cancer. Tu veux venir chez moi visiter mon parc d'attractions Neverland, mon petit ? Mais je ne suis pas un enfant malade, je suis Eric Ciotti,
le maire de Nice. Michael Jackson, le film.
C'est un film qui fait peur, la nuit du film qui fait peur. Il n'y a pas de seconde chance contre la chose, car en Dieu, le film qui fait peur.
Bonjour jeune homme, je m'appelle Jacques. Et nous nous sommes croisés chez mon ami Jeffrey Epstein. Dites-moi, vous n'auriez pas vu passer un enfant moche qui a un cancer ?
Mais arrêtez ! Bon, moi je vous laisse. Billie Jean n'est pas ma copine. C'est juste une meuf qui dit que je l'ai engrossée. Mais l'enfant n'est pas de moi. de Mathieu Béliard.
Allez. Bon film. À demain.
Ah, je peux plus le voir.
Bah ouais.
Mathieu voulait aller voir le film. Là, c'est
bah oui, non, mais faut venir avec moi. Moi, j'ai très envie d'aller le voir. Je pense qu'on va se faire une belle séance cinéma. Préparez les pop-corn. On vous fera un débrief.
On va tous ensemble. Oh, il est 8h22.
Comment je fais, moi, là,
bah oui,
franchement, genre... comment je fais? Non, mais honnêtement, mettez-vous à ma place. Là, dans un instant, le jingle, le face-à-face, bonjour Gérard Larcher.
Le prix de l'essence, le détroit d'Hormuz. Oh là là!
Oh là là! Allez, dans un instant, c'est le face-à-face, vous l'aurez compris, ça se passe sur RMC et BFM TV. Mon invité, c'est le numéro 2 de l'État, Gérard Larcher, président du Sénat. Il est 8h22, donc à tout de suite. À mes questions ce matin, vous êtes bien sûr le président du Sénat, vous êtes vous-même sénateur Les Républicains des Yvelines, vous êtes le deuxième personnage de l'État. Une question évidemment d'abord sur les conséquences ici de la guerre. Ces aides qui ont été annoncées, qui ont fini par être annoncées hier sur le perron de Matignon, ces aides ce sera notamment 20 centimes par litre pour ceux qui roulent plus de 30 km par jour et qui gagnent moins de 17 000 euros. Est-ce que vous considérez que c'est à la hauteur ?
Écoutez, il faut d'abord regarder la situation financière de notre pays. Situation financière de notre pays avec un endettement extrêmement élevé, aucune capacité d'amortir les crises et la nécessité, on l'a vu hier, de réduire le budget de 6 milliards, 4 milliards pour l'État, 2 milliards
pour la sécurité, sociale,
avant d'aborder quelconque politique de soutien face à la crise. Pourquoi ? Parce que cette crise, elle a des conséquences sur la croissance. Déjà, on a perdu 0,1 point de croissance. Ça peut apparaître techno, ce chiffre.
Et ça sera vraisemblablement 0,2.
3 milliards, déjà. C'est l'augmentation des taux d'intérêt. Nous n'avons cessé de dire qu'on ne pouvait plus continuer à endetter ce pays. Ça fait aujourd'hui un coût de 3,6 milliards. L'augmentation des taux d'intérêt depuis le début de l'année. Et puis, il y a naturellement l'accompagnement des moyens militaires, c'est 1 milliard. Cette réalité-là, eh bien, elle ne donne pas au gouvernement d'autres marges de manœuvre que de faire ce qu'il est possible de faire en direction de certaines catégories. Mais bien sûr, mais nous le disons depuis longtemps, nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens et nous n'avons pas les moyens d'amortir les crises et de faire face dans un pays qui est déjà et surendetté et surfiscalisé. C'est ça la réalité de notre pays et c'est sur quoi d'ailleurs nous devrons avoir l'an prochain un débat. Comment on redresse ce pays ?
Enfin, c'est quand même très décourageant ce que vous dites.
C'est pas décourageant. Je crois qu'il faut dire la vérité aux Françaises et aux Français. On ne peut pas faire comme si il ne se passait rien, comme
en fait,
si nous n'avions pas un budget totalement déséquilibré, comme
paye
si nous
aujourd'hui
n'avions pas un déficit
le budget,
de 5%.
On paye aujourd'hui les choix ou les non-choix qui ont été faits au moment du budget.
On paye aujourd'hui les non-choix depuis 10 ans. On paye le quoi qu'il en coûte. On paye un ensemble d'engagements où on n'a pas réduit la dépense publique. On n'a pas réformé l'État. Pardonnez-moi, c'est quelque part le bilan de deux quinquennats d'Emmanuel Macron. Je suis en train de vous décider.
Vous êtes en train de me dire que les deux quinquennats d'Emmanuel Macron ont laissé la France exsangue.
Elle laisse la France, en tous les cas, en hypoxie, comme diraient les vétérinaires, en manque d'oxygène.
Je rappelle évidemment que vous êtes vétérinaire. Gérard Larcher, le problème, c'est que ça, c'est du point de vue de l'État et effectivement des finances publiques. Quand vous prenez le point de vue de ceux qui, aujourd'hui, et j'ai eu plusieurs témoignages sur RMC ce matin, d'une personne qui travaille dans l'immobilier, dans la région de Troyes, dans l'Aube. Elle dit, moi, je roule 100 km par jour. Sauf que, voilà, j'ai deux enfants, que finalement, on gagne notre vie, donc on est au-dessus des 17 000 euros par an, mais pas suffisamment pour être aidé, et le sentiment toujours que les aides, c'est pour les autres.
Écoutez, les aides qui ont été décidées sont pour un certain nombre de catégories qui contribuent à la production dans ce pays. Les agriculteurs,
les pêcheurs,
ceux qui sont transporteurs, ceux qui assurent, j'allais dire, le covoiturage, que ce soit taxi ou Uber, et puis les 3 millions, notamment de ceux qui ont des revenus à la fois modestes, mais qui sont particulièrement utiles. Je pense, parle beaucoup d'autonomie, toutes les aides à domicile, tout ceci. Alors bien sûr, pour les classes moyennes, ça n'est pas, j'allais dire, une bonne nouvelle, mais elles sont aussi celles qui contribuent à la fiscalité. Elles se rendent bien compte qu'on ne peut pas aller, vers plus de fiscalité. Donc,
mais
la réalité,
ils ont le sentiment de donner beaucoup et de recevoir très peu.
Ceux qui bossent. Voilà pourquoi il faudra bien qu'ils se posent la question. Demain, est-ce qu'on peut continuer dans l'augmentation de la dépense.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'ils devront en tirer les conséquences dans leur vote.
Bien sûr.
Au fond. Gérard Larcher, pourquoi les gens ne sont pas dans la rue? Je vous pose la question parce que, au fond, lorsque l'on regarde ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, les Gilets jaunes, c'était un problème de carburant, c'est ce qui les a poussés sur les ronds-points. Comment est-ce que vous jugez le climat social aujourd'hui en France?
Je juge le climat social à l'aune du climat international. Il y a beaucoup d'angoisse, d'interrogation face à ce qui se passe au Moyen et au Proche-Orient. On en parle peu. Il reste, j'allais dire, la réalité de ce qui se passe en Ukraine, avec l'incroyable résilience des Ukrainiens face à l'agression russe. Tout ceci angoisse les Françaises et les Français. Je le vois dans les messages que je reçois. Vous l'entendez sur l'antenne. Moi, je reçois dans les lettres, dans les mails, dans les appels qui me sont faits. Qu'est-ce qu'on va devenir? Quelle perspective voyez-vous? Et ça, cette incertitude, quelque part, elle est un peu paralysante.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous estimez que les Français sont dans une forme de résignation, d'attente?
En tous les cas, d'attente inquiète.
D'attente inquiète. Gérard Larcher, dans ce contexte-là, vous le disiez, il va falloir trouver 6 milliards d'euros, 4 milliards qui sont demandés aux différents ministères, 2 à la Sécurité sociale, et on est déjà dans les débuts des préparatifs pour le budget 2027. Dans ce contexte-là, honnêtement, qu'est-ce qui peut en sortir?
D'abord, il y aura un autre rendez-vous en juin du comité d'alerte des finances publiques, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient projet de loi de finances, et nous verrons en fonction de l'évolution internationale s'il n'y a pas d'autres nécessités de gel et de surgel.
Vous anticipez déjà que les 6 milliards ne sont pas assez.
Nous au Sénat, en tous les cas, nous suivons ça avec beaucoup d'attention. Nous avions mis en garde le gouvernement. Vous savez que nous avions fait des propositions budgétaires qui allaient beaucoup plus loin dans la réduction des dépenses. Mais aujourd'hui, j'allais dire, on essaie de se sortir ensemble de cette difficulté. Et la préparation budgétaire 2027, nous l'avons déjà entamée. Et nous présenterons une proposition au gouvernement, les rapporteurs généraux, les présidents de commission, à la fin du mois de juin. Avec les trois hypothèses, il y a un accord politique et ça permet d'avoir un budget. On sait qu'en 2027, après l'élection présidentielle et l'élection législative qui suivra, il y aura sans doute un projet de loi de finances rectificative. Mais comment on fait pour cette période, pour faire face aussi à nos engagements aussi militaires qui deviennent
et ça,
une priorité.
Et ça, pour le coup, vous estimez qu'il ne faut absolument pas toucher?
Pas toucher, c'est indispensable. La deuxième des choses, si nous n'arrivons pas à un accord politique, est-ce qu'on passe par une loi spéciale et des services votés, mais qui, eux, j'allais dire, n'ouvrent pas de nouvelles capacités budgétaires, notamment, je reviens à la défense, mais il y a d'autres aspects aussi.
Est-ce qu'il y a un troisième scénario?
Et le troisième scénario, ce serait de passer par ordonnance. Je vous rappelle, le gouvernement peut, dans l'impossibilité, après 70 jours d'examen, décider que
ce serait
ordonnance.
Pas si mal, si je vous entends?
Non.
C'est
sur la base du budget initial. Il faut regarder ces trois hypothèses.
En tout cas, vous n'en excluez aucune?
Je n'en exclus aucune. Nous nous préparons aux trois hypothèses. Notre objectif au Sénat, c'est d'être utile au pays, d'apporter aux Françaises et aux Français un certain nombre de réponses, de perspectives, et d'essayer, quelque part, de réduire leur inquiétude, pour qu'ils y voient au moins pour l'année prochaine un peu plus clair, et qu'ensuite ils fassent leur choix.
Je suis quand même frappée, Gérard Larcher, dans ce que vous avez dit, notamment sur les fameux 6 milliards. Vous laissez entendre qu'en réalité, ces 6 milliards, alors bien sûr, maintenant, on nous dit que c'est parce qu'il y a la guerre et qu'il y a un impact. Mais je vois votre sourire, et je le précise pour ceux qui nous écoutent à la radio et qui n'ont pas effectivement l'image en plus du son. Au fond, même s'il n'y avait pas eu la guerre... Vous laissez entendre que il manquait de toute façon des milliards. Il aurait manqué des milliards.
Il manquait de réduction de la dépense publique.
Mais en effet, il faut revenir. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait une insincérité, pardon?
Non, mais non, puisque.
Ou un optimisme exagéré.
On n'a pas tenu notre parole.
Alors, je vais vous dire la chose dans l'autre sens. Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte d'optimisme naïf?
Pas d'optimisme naïf, d'optimisme d'opportunité pour tenter d'avoir un accord avec le Parti Socialiste.
Voilà.
Mais on n'a pas dit totalement la vérité aux Français.
On n'a pas dit la vérité aux Français.
Totalement. On a eu des débats, nous l'avons dit.
Est-ce que ça veut dire que les 6 milliards qui sont aujourd'hui justifiés par la guerre...
Écoutez, on ne réécrit pas l'histoire. Nous avions proposé d'avoir une trajectoire qui nous amène non pas à 5, mais à 4-8. Regardez où sont les différences du... Voilà. Du déficit.
Donc en fait, c'était écrit.
Pour nous, c'est en tous les cas, au-delà des événements, une trajectoire qu'il va falloir reprendre en 2027. Je vous rappelle qu'on s'est engagé au plan européen à être à 3% de déficit en 2029. C'est quasiment intenable si on ne fait pas des efforts colossaux. Diminution de la dépense publique, je reviens là-dessus. On n'a plus de levier de fiscalité, on est déjà médaille d'or.
Le RN demande notamment un projet de loi rectificatif, alors notamment pour pouvoir faire baisser la TVA sur les carburants, mais est-ce qu'un projet de loi rectificatif vous paraît ?
Le RN doit faire preuve de responsabilité, baisser la TVA, de la passer de 20 à 5,5 comme ils le disent. Allez, c'est entre 12 et 17 milliards de conséquences budgétaires. Voyons où on en est, rien que ça. Quand j'entends aussi les films parler de blocage, ben là c'est la garantie de la pénurie et des kilomètres. De kilomètres de queue pour aller à la station-service. Non, il faut être responsable. Être responsable, il faut qu'on réfléchisse. Et à mon avis, il y a un travail de fond à engager à nouveau vraiment sur la place, pardonnez-moi, de l'électricité par rapport aux énergies fossiles et au gaz.
Et donc cette planification.
Et cette planification, mais aussi, qu'est-ce qu'on fait des certificats d'économie d'énergie? Mais ça nécessite une réflexion. Faut pas
ça,
le faire.
C'est ce que demandent les distributeurs. Les distributeurs demandent à repousser ce moment où ils doivent.
Bien sûr, et ça mérite un débat. Oui, c'est un décret. Mais ça mérite un débat.
Sur l'économie, tiens, vous trouvez que le RN, vous venez de dire, je les appelle à la responsabilité, le fait qu'ils aient eu ces échanges avec le MEDEF, vous trouvez que c'est bien, c'est pas bien, c'est normal?
C'est une formation politique, ils ont des parlementaires, ils dialoguent avec les acteurs économiques. J'espère que ils ont un côté pile et un côté face. Ils ont un côté pile où ils disent, mais on est pour la libre entreprise, et le côté face, ils nous ont mis 30 milliards de taxes en proposition l'an dernier en plus. Et ils ont soutenu la suspension de la réforme des retraites avec les conséquences financières qu'on connaît.
Philippe Juvin, qui est rapporteur du budget, évoque, lui, une quinzaine de milliards d'euros à trouver. Est-ce que vous pensez que c'est à peu près ça ?
En tous les cas, c'est un dialogue qui est entamé entre nos deux rapporteurs généraux. Il est le rapporteur général de l'Assemblée nationale. Jean-François Husson est le rapporteur général du budget du financement de l'État, de la prochaine loi de finances, au Sénat. Ce sera dans ce dialogue-là. Il nous faut rechercher les formes d'optimisation budgétaire.
La voix de la France dans le monde, dans ce contexte, avec des négociations à venir, notamment Liban-Israël, et peut-être, effectivement, puisque l'ultimatum a été repoussé, mais le blocus maintenu, à nouveau entre les États-Unis et l'Iran. Est-ce que vous estimez que la France est à la juste place ?
Non, nous n'existons pas aujourd'hui, notamment dans le conflit du Moyen-Orient. En fait, il y a deux acteurs, les États-Unis et Israël. Un acteur un peu lointain, la Chine. Et puis, il y a les pays du Golfe qui subissent et qui se défendent. On a la particularité, en plus d'un blocus, c'est un cas unique dans l'histoire des blocus maritimes, il y a deux pays qui se font face et qui font blocus tous les deux. Je le dis presque avec un point d'exclamation. Mais notre place au Proche-Orient m'apparaît essentielle. Nous avons perdu une partie de notre place, nous devons la retrouver. Nous devons la retrouver. J'ai d'abord une pensée parce qu'il y a un homme qui est mort, le sergent-chef Montorio, la semaine dernière, pour défendre la paix. Il appartenait à nos forces armées. Je veux vraiment avoir une pensée, parce que c'est l'engagement de la France. Et demain, pour le Liban, nous devons continuer à être présents pour soutenir l'armée libanaise. Parce qu'à la fin de l'année, il n'y aura plus de dispositif Finul. Et il faut mettre en place un autre dispositif à la frontière Israël et Liban. Et la France doit y être présente.
On doit rester présent.
On doit être. C'est indispensable présent. Nous avons la chance d'avoir un président de la République libanaise et un premier ministre libanais, deux hommes d'exception. Et je dois dire que plus que jamais, c'est notre devoir. Il se trouve qu'Israël ne veut pas nous voir sur cette scène. Et pour la première fois depuis 1993, nous ne serons pas dans les discussions à Washington, notamment entre Israël et Liban. Ça me pose problème, mais faut pas baisser les bras vis-à-vis de Liban. C'est vraiment, j'allais dire, quelque part, c'est on a une fraternité.
C'est un moment où l'on doit être à leur côté.
Oui.
Gérard Larcher, je ne sais plus comment distinguer les uns les autres à droite. Il y a de plus en plus de candidats. Alors, il y en a un officiel désormais, c'est Bruno Retailleau. Mais quand on regarde, il y a David Lisnard qui a dit qu'il y allait. Il y a Michel Barnier qui, il y a trois jours, disait, bon, en gros, je suis prêt. Vous rajoutez à ça Gabriel Attal, François Hollande. Je ne sais plus m'y retrouver. Lequel est votre candidat? Est-ce que Bruno Retailleau, aujourd'hui c'est officiel, est pour vous le candidat de la droite?
Il est le candidat des Républicains. Il a été choisi très clairement avec 74% de l'expression des adhérents. J'ai fait partie du groupe de travail qui a fait la proposition des alternatives à la désignation. Il est donc notre candidat. Et je souhaite qu'il soit demain le candidat de la droite et du centre.
Avec, devant, Édouard Philippe?
Écoutez, chacun va tracer sa route. Et puis, nous verrons à l'automne, en fonction des projets. Aujourd'hui, Bruno Retailleau, il doit présenter son projet. Il doit quelque part faire mouvement.
Mais ça veut dire quoi, faire mouvement?
Faire mouvement, c'est de se faire connaître des Françaises et des Français encore plus. Faire connaître son projet. Et puis, nous verrons la
fin
de l'automne.
Mais vous, vous y croyez. C'est-à-dire, vous, vous vous dites, c'est un bon candidat pour nous, pour la famille de la droite.
C'est mon candidat.
C'est votre candidat.
Mais bien sûr. C'est mon candidat parce qu'en plus, il a été choisi. Il a été choisi conformément à nos statuts par nos adhérents.
Il avait déjà été choisi comme président
du
parti.
Pas la même chose.
Mais là, honnêtement, on peut pas non plus dire qu'il y avait une élection hyper ouverte avec plein de candidats.
Mais non, mais chacun a pu se présenter.
Oui.
Nous avons auditionné tout le monde qu'il avait souhaité. Et donc, en auditionnant tout le monde, il y avait un choix. Le choix a été des adhérents, très largement, le choix de faire que le président soit le candidat qui nous représente.
C'est quoi aujourd'hui votre droite?
Ah, ma droite, c'est une droite très claire. Elle va du centre à la droite républicaine. Elle exclut tous les extrêmes. Elle exclut l'extrême gauche et la gauche. C'est cela. Et c'est là où le gaulliste que je demeure se retrouve.
Gérard Larcher, le Sénat, il est très largement indexé aussi sur les élections municipales, puisque ce sont les grands électeurs, c'est-à-dire ceux qui sortent notamment de ces élections-là, qui sont ensuite ceux qui choisissent les sénateurs au moment du renouvellement. Quel regard vous avez porté sur ces élections municipales?
Nous les avons, j'allais dire, la droite et le centre remportés. On s'est plutôt conforté, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas ici ou là quelques avancées, notamment sur la droite extrême et ses alliés. Nous devrions avoir une stabilité dans la perspective
du renouvellement de
la fin septembre prochain, qui sera un élément de stabilité. Nous sommes aujourd'hui à peu près la seule institution stable dans notre pays. C'est quelque chose d'essentiel. Donc voilà.
Mais ça veut dire que vous anticipez de maintenir une majorité de droite au Sénat?
De centre et de droite, oui. Parce que c'est ça la particularité. Ce que Michel Barnier a appelé le socle commun continue à exister au Sénat.
Est-ce que vous considérez que vous pouvez continuer à travailler avec le Parti Socialiste? Est-ce qu'il y a une sorte, vous parlez d'un socle commun, est-ce qu'il y a une sorte de majorité centrale, commune, qui pourrait être renouvelée?
Écoutez, le Parti Socialiste appartient à l'opposition au Sénat. C'est vrai qu'on dialogue. Nous ne sommes pas
vous
dans une guerre.
Vous revendiquez régulièrement d'avoir un dialogue
dans une
plus
guerre
constructif,
de
plus respectueux.
Mais il y a une majorité sénatoriale. Et cette majorité sénatoriale, elle est claire. Je crois qu'on a besoin de clarté politique. Et que la clarté politique, c'est sans doute la demande essentielle pour qu'en 2027, nous opérions une forme de rupture. On a cru en même temps. Ben non, je vous dis.
On revient aujourd'hui pour vous à un clivage.
Il faut revenir à la clarté politique pour que nos compatriotes puissent choisir.
Merci beaucoup Gérard Larcher d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes le président du Sénat. Il est 8h46 sur RMC et BFM TV.
Ne bougez pas sur RMC. Dans un instant, on va rire avec Nicolas Canteloup. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
8h50, face à Canteloup.
Souvenez-vous, Bruno Retailleau était mon invité dans le face-à-face et il était resté face à Canteloup.
Bonjour, Bruno Retailleau.
Bonjour.
Il est resté pour Nicolas Canteloup. Laurent Wauquiez, tiens, voulait réagir à cette interview.
Bonjour, Apolline. Oui, c'est moi, ton chouchou, ton préféré, ton homme, ton mâle, ta bête. À Apolline, comme ça fait un petit moment que tu ne m'as pas invité et qu'en plus c'est bientôt ton anniversaire, je t'ai apporté un petit cadeau.
Oh, oh dis donc, habit rouge, pourquoi donc? Merci, c'est du parfum, c'est gentil.
Non, non, c'est pas du parfum, c'est plus précieux que ça. C'est du sans-plomb 95. J'ai pas les dîners, 50 millilitres.
Wow.
Je suis allé chercher jusque dans le détroit d'Ormuz.
Oh là là, c'est trop beau.
Il y a que là qu'on en trouve, c'est un passeur qui m'a introduit, j'ai pris tous les risques pour toi.
Merci.
Bref, l'avocat. Parlons maintenant de Bruno. Celui que j'appelle mon grand ami Bruno. Donc c'est aussi l'anniversaire. Si, si, Bruno. Ça fait, c'est ton 305. Quel jour en tant que président des Républicains, je peux te dire que j'ai tous compté. Mais ça, tu le savais déjà qu'avec moi, t'es toujours été compté. Hein, mon Bruno ?
Merci, monsieur Wauquiez. Marine Le Pen souhaitait nous rejoindre.
Non mais arrêtez, c'est ridicule. Arrêtez cette musique, arrêtez, j'ai pas le cœur à ça.
Bah pourquoi ? Bah le Rassemblement National a remporté les élections municipales dans une soixantaine de villes. On vous aurait cru plus enthousiaste.
Oh oui, c'est un raz-de-marée. Victoire à Vierzon. Oh là là, toutes les chaînes infos sont en boucle. Hein, on parle que de ça. Victoire à Liévin, victoire à Ayange. Non, quel résultat ? On est champion sur les villes de 1200 habitants. Non mais franchement, vous croyez que je vais saluer et sauter de joie parce que le RN va diriger Montargis, Péménade et brûler la Buchière.
Hein bon, à Nice, c'est quand même Éric Ciotti, votre allié qui l'emporte.
Oui, mais écoutez, Ciotti. Oh, arrêtez avec Ciotti. Bon, parlons-en, Ciotti. Un vieux chauve de droite qui prend une ville peuplée depuis le 14e siècle, hein, par qui ? Par des vieux chauves de droite. Tu parles d'une performance.
On part à Nice où on retrouve le vainqueur. Donc, bonjour Éric Ciotti.
Mes amis, mais c'est le banquerolle. Non mais arrêtez, il y a une fluide de confetti. C'est le carnaval, on ne me voit plus. Nous avons, mes amis, conquis la mairie de Nice. Grâce à vous, vous êtes des millions et des millions. Oui, bon, j'ai pas le chiffre exact. Des millions à nous avoir soutenus. Nice outragée, Nice martyrisée, mais Nice libérée.
Anne Hidalgo, quel plaisir de céder votre fauteuil de maire de Paris. Merci de répondre à nos questions. J'imagine qu'il y a une certaine émotion. Hein.
Oui, surtout quand je pense à toutes les Parisiennes et tous les Parisiens à qui je vais, vous le savez, beaucoup manquer.
C'est pas sûr ça quand même.
Mais si, évidemment, je vais leur manquer sans moi. Comment dire à votre employeur, comment se justifier que vous êtes arrivé en retard à cause des bouchons ?
Ah oui.
Sans moi, comment dire à votre belle-mère que vous devez partir à cause du stationnement à 12 euros de l'heure ?
Ah bah oui.
Ou encore, comment dire à votre conjoint que c'est à cause de la taxe foncière si vous n'avez pas pu acheter un cadeau d'anniversaire ? Voilà. Voyez, c'est à ça qu'on reconnaît un bon bilan de maire. C'est quand on réussit comme ça à impacter durablement la vie de ses administrés.
Merci Anne Hidalgo. Christian Estrosi a annoncé se retirer de la vie politique après avoir perdu son fauteuil de maire. On réécoute sa déclaration.
Je voudrais m'adresser aux Niçoises et aux Niçois dont je ne me suis jamais senti aussi proche puisque je suis désormais moi aussi à la retraite.
Ah oui.
Merci aux Niçoises et aux Niçois de m'avoir montré le chemin de la chaisesse et de mon canapé. Je vous dis au revoir. Je vais désormais me consacrer à ma famille et m'occuper de mes enfants, Nif Nif, Naf Naf et Nouf Nouf. Pour leur éviter d'être décapité comme papa.
Oh non. Merci monsieur Estrosi. Éric Ciotti l'a donc emporté à Nice. Hein.
Mes amis, oui, aujourd'hui est un grand jour pour
oui,
Nice.
Oui, mais on le sait, vous avez gagné la mairie.
Non, mais c'est surtout que Christian Estrosi a quitté la vie politique.
Ah, oui.
Ça confirme que c'était un gauchiste. Il fait exactement comme Lionel Jospin, une branlée face à l'extrême droite et il part en chialant. Oh. Mais exactement comme le vieux frisoté de l'île de Ré. Non, soyons dignes. Oui, et République. Oui, coiffure assez atypique.
Oui,
j'ai voulu m'en inspirer, mais...
Ah oui, ça n'a pas marché.
Alors.
Bon, allez, soyez digne et républicain, comme vous disiez.
Tu es parti, Christian. Toi, le maire de la baie des Anges, parti trop tôt,
trop tard ou pas assez tôt, enfin bon. Tous les honneurs républicains te seront rendus puisque tu seras inhumé à Nice la nuit prochaine dans la fosse commune du cimetière Dick Rivers. J'ai également décidé de rebaptiser un lieu emblématique de notre ville en ta mémoire, oui, cher Christian Estrosi, comme nous l'avions fait avec l'avenue Jacques Médecin. Je vous annonce donc l'inauguration prochaine de la déchetterie Christian Estrosi. Et de manière concomitante, la promenade des Anglais sera rebaptisée promenade Éric Ciotti.
Ah oui.
Vu comme je me suis baladé face à Estrosi, 10 points dans sa gueule à Portinet.
Merci Nicolas. Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain à 8h50 et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG avec Olivier Truchot. Bonjour Olivier, quel est le menu ?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les grandes gueules à partir de 9h avec autour de la table Antoine Dierre, ce consultant de Dunkerque, Zor Habitant, la fonctionnaire et l'éducateur Abel Boyi. Puis nous recevrons face aux GG le chroniqueur télé Mathieu Delormeau qui vient nous raconter comment il essaye de s'en sortir face à ses addictions, face à la drogue qui a failli lui coûter la vie. Donc rendez-vous dans un instant avec les GG sur RMC, RMC Story.